Bonjour, bonsoir et bienvenue dans L'œuvre noire, l'émission qui décrypte les références artistiques et culturelles liées au métal. On est dans l'épisode 4, je suis Scalnax de Métallurgie. Et on est parti pour un nouvel épisode. Alors déjà, commencer par vous souhaiter une très bonne année. C'est la saison des tops, je l'avais dit à la fin de l'épisode 3, donc on va peut-être commencer par ça. Et à la suite d'un petit récap de mes coups de cœur de l'année en musique, mais pas que, on va attaquer un quatrième dossier, du coup, consacré aux femmes tueuses dans le métal. Quelles sont ces femmes tueuses? Quels groupes ont-elles inspiré et pourquoi? On reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc, si jamais vous voulez passer directement à cette partie de l'épisode, je mettrai le timecode, la référence dans la description. Et puis sinon, voilà, on va partir sur un petit top 5, voilà, des coups de cœur de l'année, avec 5, on va dire un top 5 que j'ai pas mal poncé pour le coup. Pour moi, c'est toujours pas évident de trouver 10 albums qui m'ont énormément marqué sur une année, ou alors en général je vais les découvrir avec un peu de retard. Voilà, donc au total j'ai quand même réussi à boucler un top 10 que vous pourrez retrouver sur Métallurgie d'ailleurs avec les top 10 de toute l'équipe et puis le top général du site. Voilà, donc quels sont les disques qui nous ont le plus plu à toutes les rédacs de Métallurgie. Vous pourrez retrouver ça sur le site. En ce qui me concerne, du coup, je vais focaliser vraiment sur les 5 premiers, histoire de ne pas passer trop de temps dessus. Donc en numéro 5, j'ai vraiment adoré un album de Vulgaire Machin. J'ai écouté pas mal de punk cette année, et ça s'est vérifié avec cet album de Vulgaire Machin, qui s'appelle Disruption. Donc c'est un groupe québécois, donc voilà, petite particularité, qui chante en français. Et qui a des textes, je trouve, vraiment intéressants, qui a un sens de la mélodie aussi qui marche très bien. Il pratique un punk rock assez, avec une recette assez connue. Enfin voilà, c'est vraiment le punk rock tel qu'il a commencé à arriver dans les années 90 à peu près. Et puis avec des textes, comme je disais, chantés en français, assez engagés, avec un côté quand même mélancolique qui est très touchant. Voilà, ça parle d'engagement politique, mais ça parle aussi un petit peu de désespoir, de solitude, de choses comme ça. Donc je vous recommande très très vivement Vulgaire Machin. L'album s'appelle Disruption et il est vraiment très bien. En quatrième position, je mettrai l'album de Falls, qui est un groupe de plutôt pop indie rock, on va dire. Je connaissais, ouais, allez, un ou deux titres comme ça. Et c'est vraiment la pochette qui m'a donné envie d'écouter cet album, une pochette blanche avec, si je me souviens bien, des espèces de fleurs dans des tons roses et verts dessus. Voilà, un côté hyper estival, et c'est vraiment ce qui ressort de cet album de Falls, qui, je trouve, a un côté très pop, très ensoleillé. Dans les guitares notamment, il y a un côté presque, enfin voilà, je dirais pas disco, mais on s'en rapproche un peu. Il y a toute cette ambiance festive, en fait, on a l'impression d'écouter un groupe de rock qui voudrait faire de l'électro ou qui voudrait faire de la disco, plus ou moins. Donc c'est vraiment très très bien. Il y a de bons tubes dessus. Et voilà, si vous voulez changer d'air un peu avec la grisaille actuelle, Falls, l'album s'appelle Life is Yours. Il est excellent de bout en bout. Donc je vous le recommande à 100%. Troisième position, bon, je dois tenir ma réputation de fan de black metal, donc j'ai mis un album forcément. J'ai mis Ulta, un groupe allemand. Ils en sont pas à leur coup d'essai. Là, c'est l'album All That Has Never Been True. Et cet album m'a particulièrement plu pour Ulta. Je connaissais à peu près, voilà, peut-être un ou deux. J'avais dû écouter un ou deux albums d'avant. Ils ont la particularité de faire des albums assez longs, en général on est proche d'une heure, et bon, il faut avoir des choses à dire quand même en une heure, il faut avoir des idées, et là pour le coup je trouve qu'ils ont, vraiment trouvé un bon équilibre sur ce disque là, avec voilà, une durée encore assez longue, mais qui passe sans problème. On est sur un black metal qui a des sonorités un petit peu modernes. Enfin voilà, c'est pas du raw black metal enregistré dans un grenier non plus. Donc ils ont vraiment des bonnes choses Ils ont vraiment des bonnes compos, un son voilà, tout à fait accessible si vous voulez aller tester ça. Et que dire de plus, voilà, c'est du black, comme je disais, hein, plutôt moderne, avec des bonnes idées. Je saurais pas dire s'il y a beaucoup de choses à rajouter en plus. Mais voilà, tout à fait recommandable également, cet album de Ulta. J'ai l'impression qu'il a pas mal plu en black metal cette année, donc voilà, je vous le conseille également. Sur la deuxième marche de ce top, on va retrouver encore une fois du punk et du punk de chez moi. Voilà, un groupe qui s'appelle Syndrome 81, groupe brestois que j'ai eu la chance d'interviewer en plus cet été à propos justement de la sortie de cet album. Album qui s'appelle Prison Imaginaire, c'est leur premier LP, mais ils ont sorti pas mal d'EP et de démos avant. Donc voilà, ils tournent déjà depuis un petit moment, et avec Prison Imaginaire, ils ont vraiment sorti quelque chose de superbe. Donc c'est du punk chanté en français, avec un petit côté cold wave quand même, cold wave post-punk. Donc il y a pareil, une petite mélancolie comme ce qu'il y avait sur Vulgaire Machin, mais vraiment avec ce côté un peu années 80, un chant qui peut faire penser un petit peu à de la Oi parfois, avec un côté un petit peu gueulard quand même, mais y a le secret de ce disque, c'est vraiment des trouvailles de mélodies claires à la guitare qui sont imparables. Y a vraiment des titres excellents là-dessus. Et au-delà de ça, je trouve que le disque est super, donne beaucoup envie, ne serait-ce que visuellement, avec une pochette dans les tons vert, rouge, noir. Enfin, vous la verrez, vous irez chercher Prison Imaginaire de Syndrome 81. La pochette a un côté très, très artistique. En fait, si j'ai bien compris, c'est un tatoueur qui fait aussi des artworks. À côté, et c'est une pochette voilà qui c'est une pochette qui est voilà très marquante, assez marquante visuellement, et qui sort vraiment des carcans du punk style photocopie noir et blanc, etc. Là, on a vraiment quelque chose de visuellement très beau, très travaillé. En plus, voilà, bon, comme je disais, j'ai eu la chance d'interviewer le groupe cet été. Ils ont été très cool. On a eu voilà un bon échange. Et je tiens à les saluer pour vraiment l'effort qui est mis de leur part de sortir un disque en 2022 qui coûte 17 € pour un vinyle. Donc ça, c'est chapeau bas pour eux quand on voit les prix qui augmentent sans cesse, quand on voit des albums à 40 € à la Fnac. Bon, ben, ça force le respect de voir un petit groupe de punk sortir un album à des prix accessibles et en plus un bel objet. Donc voilà, allez écouter Syndrome 81. Prison imaginaire. Et ensuite, on arrive au numéro 1 qui est un énorme coup de cœur, le Ghost, voilà, le dernier Ghost qui a divisé hein, pas mal quand même. Il y a des gens, il y a ceux qui l'adorent et ceux qui le détestent. Donc cet album, il s'appelle Impera. C'est Ghost qui se roule dans la pop comme jamais auparavant. Et moi, je suis totalement client de ça. Je trouve que tous les titres sont tout à fait mémorables. Il y a des superbes tubes comme Spillways, bien entendu, mais il y a plein de choses à découvrir sur ce disque. Et voilà, on sent que Papa Emeritus, il s'est fait super plaisir avec cet album, et ça se ressent à l'écoute. Il y a un sens de la compo, un sens de la trouvaille dans le refrain. Enfin voilà, même ceux qui grincent un peu sur l'album ne peuvent pas ne pas aimer Call Me Little Sunshine par exemple. Et puis j'ai eu la chance de voilà, c'est même cet album qui m'a fait monter à Paris pour aller voir Ghost en concert. Donc je fais pas c'est très rare que j'aille faire des concerts à la capitale, mais voilà, pour voir Ghost, c'était une étape obligée, et c'était un vrai plaisir de les voir sur scène également. Voilà, donc un top assez assez éclectique finalement, hein, avec une petite dominante punk pour cette année. Et pour terminer, avant de passer au sujet du jour, une petite recommandation lecture, bah oui, tant qu'à faire, puisqu'on parle de livres un petit peu dans ce podcast de temps en temps. Voilà, un gros coup de cœur cette année sur un auteur qui a sorti en tout, qui a sorti 2 livres pour le moment. Un auteur qui s'appelle Martin Mongin et qui a sorti cette année un livre qui s'appelle Le Chaumort. Je vous recommanderais peut-être de lire d'abord son premier livre qui est celui qui m'a foutu une énorme claque. Un livre qui s'appelle Francis Ricin, donc c'est une fiction politique, on va dire ça. Pour vous donner un petit peu l'aperçu du bouquin, on est en France à l'époque actuelle. Et mystérieusement, des affiches politiques commencent à être collées un peu partout dans le pays. Et ces affiches ne comportent aucune photo, il y a juste un nom, Francis Rissa. On n'a pas plus d'infos, on n'a pas d'adresse vers un site internet ou quoi que ce soit. C'est juste de la pure propagande, sans qu'on ait aucune explication. On ne sait pas qui colle ces affiches, on ne sait pas qui est le commanditaire derrière tout ça. Et ça crée tout un emballement, ça crée tout un rassemblement de gens qui suivent Francis Ricin. Certains disent l'avoir vu, mais on ne sait même pas si vraiment cette personne existe. Et voilà, c'est un livre vraiment passionnant qui m'a retourné le cerveau. Si vous aimez les choses, voilà, les lectures qui vous déroutent totalement, qui aiment bien casser le quatrième mur, enfin voilà, tout ce genre de choses. C'est un auteur à suivre, Martin Mongin, donc avec ce livre Francis Ricin qui n'est pas sorti cette année. Celui qui est sorti cette année s'appelle Le Chaumort, qui est un livre qui est pareil, un peu ovni. Enfin voilà, c'est le genre de choses que vous avez, un peu le genre de bouquin que vous avez jamais lu. On est presque du niveau un peu méta par moment. Le Chaumort, pour parler très rapidement des thèmes, ça parle de mettre à mort le capitalisme, mais sous forme d'escape game. Voilà, c'est à peu près l'idée du bouquin, si je le résume en deux mots. Donc voilà, vraiment, allez lire Martin Mongin. Je vous conseille vraiment Francis Ricin. Et bien sûr, si vous avez aimé, foncez sur Le Chaumort, qui est également un très bon livre que j'ai lu cette année, qui m'a mis une belle claque. Voilà, donc on peut conclure là-dessus ce top de fin d'année 2022, en espérant qu'on ait voilà, d'aussi bonnes choses qui arrivent cette année, en 2023, et on va pouvoir attaquer tout de suite le thème de l'épisode, à savoir les femmes tueuses, que celles-ci soient d'ailleurs légendaires ou qu'elles aient réellement existé. Et on va, à travers cet épisode, on va revenir sur trois groupes. On va forcément parler de Bathory, hein, vous saurez pourquoi. On va parler également de Exécutor, et enfin, puisqu'on n'aura pas un groupe mais deux groupes de thrash metal, on aura également Flotsam and Jetsam pour terminer avec une troisième figure de femme tueuse. Alors pourquoi ce thème, comme d'habitude, ça part souvent de mes interrogations. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur certains sujets, en l'occurrence. Bathory, on va parler d'Elisabeth Bathory, et je me rendais compte que je connaissais essentiellement la légende, mais sans avoir creusé beaucoup plus, donc je suis parti de là-dessus, et j'ai voulu voir s'il y avait peut-être d'autres figures féminines qui avaient inspiré le métal pour leurs actes de barbarie. Alors, le but, je tiens à dire ça avant toute chose, une petite introduction là-dessus. Le but, c'est pas d'idéaliser les tueuses. C'est quelque chose que j'aime pas du tout avec les serial killers, par exemple. Je trouve l'espèce de fascination morbide autour des serial killers, j'ai du mal à. C'est un truc qui me dérange en général. C'est un petit peu le malaise souvent. On ne sait pas trop où est la frontière entre voilà s'intéresser à l'histoire et au fait que ça a pu être des personnages forcément intrigants. Et la question, voilà, c'est à quel moment on saute le pas de la glorification de ces personnages-là, sachant que ben certains ont réellement existé, ça a des impacts, ils ont causé des réelles victimes, ça impacte des gens dans le réel. Donc, il y a un moment où l'espèce de fantasme sur ce genre de figure, il faut peut-être s'interroger. On a peut-être tous à s'interroger justement sur la fascination qu'on peut avoir à propos de ces personnages-là. Donc mon but ici, je vais essayer de rester dans cette limite-là de l'information et d'essayer de comprendre un peu qui sont ces personnages-là, sans non plus chercher à glorifier. C'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est plus d'apprendre, voilà, d'en apprendre plus sur les inspirations des groupes et peut-être de voir si ces groupes justement ont une sorte de fascination, et est-ce que c'est pas le rôle du métal aussi d'aller du côté des méchants, forcément, d'aller du côté sombre. Pour cela, rien de mieux qu'un tueur ou en l'occurrence une tueuse. Pareil dans cette petite introduction sur ce thème-là des tueuses. Alors je tenais à remettre aussi en perspective parce que les femmes tueuses, voilà, j'en parle, on va en parler parce qu'il y a toute une sorte de mythe et de représentation qu'on peut avoir autour de ça. Néanmoins, je pense qu'il est important de rappeler certains chiffres, en l'occurrence sur la criminalité des femmes, qui est nettement inférieure à la criminalité des hommes. En l'occurrence, si je cite, là je cite directement le site de l'INSEE, on voit que 18% des personnes qui sont arrêtées par les forces de l'ordre pour des crimes ou des délits sont des femmes, donc ça laisse une écrasante majorité d'hommes. Donc 18% des personnes arrêtées sont des femmes, alors qu'elles représentent à elles-mêmes 52% de la population. Les femmes sont plus connues pour des escroqueries ou des vols sans violence. C'est plutôt dans ce genre de délit-là qu'elles sont arrêtées. Tandis que les hommes, eux, dans une écrasante majorité, sont plus responsables de violences physiques, d'infractions à caractère sexuel ou de vols avec violence. Voilà, avec des chiffres qui montrent bien que la violence ou le taux de criminalité est bien plus fort chez les hommes et d'autant plus dans les crimes les plus répréhensibles, pour le coup. Donc ça me semble un peu important de rappeler tout ça pour la simple et bonne raison qu'on a une représentation qui sont à questionner sur les femmes criminelles, les femmes face à la justice, et il y a justement une femme qui s'appelle Elena Kennedy, une Britannique qui est avocate, qui est élue également au parti travailliste, qui a écrit plusieurs ouvrages sur les rapports justement entre les femmes et la justice. Et elle parle du... Alors, je ne sais pas si c'est elle qui a vraiment formulé le concept, mais elle parle du concept de She Devil, donc en gros l'association entre la féminité, on va dire, et le côté démoniaque ou le côté machiavélique, on va dire. Et elle s'est intéressée justement à tout ça à travers plusieurs livres, et elle en ressort certaines thèses, comme quoi certaines thèses appuyées sur des faits, appuyées sur des études de procès, où on se rend compte que le jugement est quand même différent entre les femmes criminelles et les hommes criminels. Pourquoi? Parce qu'en fait, les femmes sont souvent jugées plus sévèrement du fait de la représentation de la femme dans la société. Ça paraît presque inconcevable et donc impardonnable. C'est ce qui est, c'est un peu la représentation qu'on a de la femme tueuse. Ça paraît inconcevable et impardonnable qu'une femme ait laissé faire ou ait participé à des exactions comme de la torture ou d'autres faits de violence. Ça contraste ou ça, c'est peut-être à mettre en rapport avec ces chiffres-là de la criminalité dont on a parlé un peu plus tôt, où les femmes sont minoritaires dans ce genre de faits. Elles sont minoritaires, mais lorsqu'elles passent à l'acte, elles ont un traitement défavorable vis-à-vis des hommes face à la justice. Il y a eu aussi quantité de femmes qui ont participé à des choses horribles, des femmes qui étaient du côté des nazis, des femmes qui ont été des cadres actifs de Daesh aussi. Donc c'est paradoxal et il y a vraiment une sorte de, comme on le disait, de représentation à questionner, à interroger. Je continue de citer Elena Kennedy. Elle a des phrases, je trouve, qui sont intéressantes et qui sont assez éloquentes. En tout cas, je trouve que sa vision est assez pertinente. Elle écrit par exemple: La terreur est un homme, la cruauté est une femme. Donc elle suggère en tout cas que dans l'inconscient collectif, dans la façon dont on voit les criminels femmes, on suggère presque une sorte de plaisir sadique, un degré de perversion supplémentaire chez les femmes comparé aux hommes. Elle constate aussi qu'il y a une sorte de tendance à sexualiser les femmes meurtrières, à faire un lien entre leur désir et leur capacité à passer à l'acte, à commettre des exactions. Et justement, cette sexualisation, on la retrouvera dans les paroles de certains groupes dont on va parler juste après. Donc tout ça, toutes ces informations que je trouve vraiment importantes avant de lancer ce sujet, on les retrouve dans un article du Guardian qui est en fait une citation, je pense, de plusieurs pages de son ouvrage qui s'appelle Eve was shamed, how British justice is failing women. Donc voilà, c'est un de ces livres qui justement s'interroge sur le traitement des femmes par la justice britannique et peut-être justement ce traitement défavorable vis-à-vis des hommes et doublée par cette représentation négative et sexualisée que l'on peut avoir de la femme criminelle. Et puisque l'on parle de femmes criminelles, et on a parlé un peu plus tôt d'une des plus célèbres d'entre elles, on va entamer directement avec Bathory, donc le groupe Bathory, qui tire son nom de Elizabeth Bathory, une femme tueuse qui est incontournable dans le métal, et on va parler plus précisément du morceau Woman of Dark Desires, qui est un morceau qui est sorti sur le troisième album de Bathory, Under the Sign of the Black Mark, un album qui est très recommandable à mon avis. Bathory, pour resituer, si jamais vous ne connaissez pas trop, Bathory, c'est déjà, ça démarre en Suède dans les années 80, c'est un des piliers du black metal, de la première vague black metal. Et il a le compositeur principal, Corton, a en gros une grosse trilogie très axée black metal. Là, c'est le troisième album de cette trilogie. Et ensuite, il part vers des délires plus épiques, plus orientés voilà, sur les thématiques vikings. Et sur des morceaux un peu plus lents, un peu plus longs aussi. Tandis que là, sur les trois premiers albums, on est avec quelque chose de plus cru. Et quelque chose qui inspire énormément plus tard des groupes comme Darkthrone ou Immortal. Sur cet album, c'est flagrant. Si vous cherchez les racines de Darkthrone, elles sont sur le morceau Call from the Grave. Et si vous cherchez les racines d'Immortal, elles sont sur le titre Enter the Eternal Fire. Voilà. Vous écoutez ces morceaux, vous retrouvez Under a Funeral Moon et vous retrouvez, disons, la recette à peu près d'Immortal dans ces deux titres. Donc Bathory, un groupe forcément très important pour le métal. Et en ce qui concerne la figure d'Elizabeth Bathory, sur laquelle on va un petit peu s'attarder, c'est un incontournable dans le métal. Alors j'avais le choix sur les artistes que je pouvais aborder. Il y avait évidemment Bathory avec cette chanson. On aurait pu parler de Venom avec Countess Bathory. On aurait pu parler de Ghost avec Elisabeth, mais bon, on l'a déjà fait, on a déjà parlé de Ghost, on a reparlé de Ghost dans le top, donc je vais un peu me calmer sur ce groupe. On aurait même pu parler de Sun, le groupe de Drone, qui a un morceau qui s'appelle Bathory Erzsébet, donc avec le vrai nom de Bathory. Et même Tormentor, le groupe de Attila, futur chanteur chez Mayhem. Qui a aussi sorti un titre en hommage à Bathory. Qui est cette personne? Donc c'est un personnage qui a réellement existé pour commencer. C'est un personnage du XVIe siècle qui vit en Transylvanie, qui est de lignée royale. Elle est la nièce de Étienne Ier Bathory, qui est le prince de Transylvanie. La légende, on va peut-être commencer par ça. La légende raconte que Elizabeth Bathory ou Erzsébet Bathory, c'est ça son vrai nom en tout cas en hongrois. Et donc la légende raconte qu'elle se baignait dans le sang de ses victimes pour garder une jeunesse éternelle. Alors la légende, moi c'est à peu près ce que je connaissais également, mais je pense que c'est intéressant d'aller voir du côté de l'histoire, parce que c'est un personnage qui a réellement existé, il y a une partie qui est un peu enjolivée ou qui est un petit peu fantasmée, entre guillemets, mais la réalité n'est pas beaucoup plus reluisante, on va dire. Si on regarde dès sa jeunesse, Elizabeth Bathory n'a pas elle a pas la vie la plus facile, on va dire. Elle souffre très jeune de crises d'épilepsie, de migraines, de changements d'humeur. Donc c'est pas un enfant qui va très bien à la base. Et dès ses 6 ans, elle assiste à une exécution publique. Donc ça peut donner, disons, des légers traumas derrière. Et plus tard, dès l'âge de 13 ans, donc quelque chose qui était plus courant à l'époque, mais qui reste quand même assez questionnable de nos jours. Dès 13 ans, elle est mariée de force pour les besoins, ben voilà, de la couronne, pour des intérêts royaux, et mariée de force à un homme qui est violent. Du côté de sa vie personnelle, il y a plusieurs de ses enfants qui décèdent jeunes. Il lui reste simplement un fils. Et son mari, malheureusement, va décéder quelques années plus tard sur le champ de bataille. Mais son mari, c'est lui qui va l'initier justement à toutes ces histoires sordides qui existent autour du nom d'Elisabeth Báthory aujourd'hui. Déjà, via sa tante, elle a côtoyé des personnes qui sont un petit peu du côté de l'ombre. En tout cas, voilà, on est au XVIe siècle, il y a encore beaucoup de superstitions. Disons que la magie est encore présente dans la tête des gens. Donc elle côtoie des sorciers et des alchimistes, notamment. Et comme on le disait, son mari, c'est lui qui va l'initier justement à la torture et à des exactions qui sont parfaitement horribles. Elle est connue, en fait, Elisabeth Báthory, pour torturer les domestiques. Et c'est ce que fait son mari également. Les domestiques, bah, c'est pas compliqué, ils sont dans le château, ils sont à la merci de leur maître. Voilà, si jamais ils venaient à disparaître, qui va s'en soucier? Bon, ça, a priori, ça pose pas plus de problèmes que ça, jusqu'à un certain point, on verra comment. Et donc, malheureusement, c'est les pauvres gens qui tombent entre les griffes du couple Báthory, puis d'Elisabeth Báthory, une fois veuve, subissent des tortures qui sont réellement atroces. Là, pour le coup, on n'est plus dans la légende, on est vraiment dans des choses qui se sont passées. Donc, je vous donne quelques exemples. Là, c'est sourcé avec notamment les correspondances qu'entretient Elisabeth avec son mari. Elle force des domestiques à manger leur propre chair. Elle contraint également une domestique à enfoncer un fer rouge dans la gorge d'une autre de ses victimes. Et un autre traitement, encore une fois particulièrement sadique, elle recouvre une de ses victimes de miel et la laisse se faire dévorer par des insectes. Voilà, donc on est sur ce niveau-là de perversion, on va dire, et de sadisme total. Et voilà, c'est un nombre terrible de victimes. Donc elle est accusée de 80 meurtres, même si il y en aurait presque, certaines sources, mais qui sont invérifiables, diraient qu'il y en aurait eu près de 600 au total. Et on a aux alentours de 300 témoignages, voilà, sur ces exactions-là, avec ben voilà, des choses parfaitement atroces. Et donc, on est sur voilà, des centaines de gens qui disparaissent mystérieusement, qui succombent dans d'atroces souffrances. Et cette série macabre va s'arrêter, va prendre fin, parce que Elisabeth Báthory, au bout d'un moment, a besoin d'aller recruter des domestiques dans les villages aux alentours. Il faut aller, il faut forcément d'autres victimes. Et à tel point que ça commence à se savoir. On sait qu'il faut cacher les jeunes filles quand les hommes de main de Elisabeth Báthory sont dans les parages. Et ce qui va déclencher, disons, une enquête et qui va mettre fin aux exactions d'Elisabeth Báthory, c'est que parmi les domestiques qu'elle recrute, ou en tout cas parmi les personnes qu'elle fait venir à son château, elle s'attaque à une fille de la noblesse, justement. Et voilà, c'est ça qui va enrayer, disons, la machine, qui va faire que toutes ces horreurs vont être découvertes et que finalement, Elisabeth Báthory va devoir répondre face à la justice de toutes ces atrocités. En ce qui concerne Báthory, le groupe, alors on comprend bien que pour un groupe de black metal, c'est un personnage incontournable, étant donné le degré de folie, de perversité, de noirceur qu'on retrouve autour de Elisabeth Báthory, le personnage historique. Voilà, avec j'ai envie de dire, il y a même pas besoin de légende autour de ça, il y a même pas besoin d'enjoliver quoi que ce soit pour faire d'elle un personnage totalement monstrueux. Et on le retrouve du coup dans les paroles de cette chanson, Woman of Dark Desires, avec, je parlais tout à l'heure, de cette histoire de sexualisation ou de fantasme autour du désir des tueuses, justement. Et c'est ce qu'on a, en fait, avec dans ce morceau. Alors, il n'est pas exclu, bien sûr, qu'il y ait, dans les exactions qui sont commises par Elisabeth Báthory, il n'est pas exclu, évidemment, qu'il y ait un penchant sadique ou sadomasochiste. C'est fort possible. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le morceau de Báthory, déjà avec le titre Woman of Dark Desires, donc la femme avec les désirs, au désir sombre, au désir noir. Et il le dit dans le vers suivant, Woman of Eternal Beauty. Et en fait, on va retrouver tout ce vocabulaire de la sensualité, de la sexualité mêlé au morbide au fil de la chanson. On retrouve des choses comme desire, delight, beauty, etc., qui en font, voilà, qui font d'elle un personnage voilà, qui mélange Eros, Thanatos, donc la mort, l'amour en même temps, et qui lui confère du coup une aura vraiment à la fois d'attirance et de répulsion face à ce personnage-là. Et donc un dernier vers qui nous intéresse, c'est un vers qui arrive sur la fin et qui nous renseigne sur les derniers jours de Elizabeth Bathory. Alors, c'est ici encore une fois que la légende et l'histoire vont se contredire. Lui, Corton, a décidé de prendre le parti de la légende. On peut le comprendre vu le contexte. Voilà, on est dans du black metal, donc il y a une dimension aussi fantastique qu'il faut prendre en compte. Et il écrit du coup « Cold walls entombs your secrets, but there is nothing you regret ». Donc des murs froids renferment en murs tes secrets, mais tu ne regrettes rien. Pourquoi des murs froids? Parce que selon la légende, justement, Elizabeth Bathory aurait été capturée, du coup jugée et condamnée à 4 ans à être emmurée dans son propre château, emmurée avec simplement un espace pour la nourrir et la maintenir en vie pour 4 ans de torture, on peut l'imaginer, 4 ans de souffrance totale avant qu'elle n'atteigne la fin de ses jours. C'est la légende. L'histoire retient que Elizabeth Bathory a en réalité fini ses jours dans une cellule classique. Elle finit en prison malgré tout, mais elle n'est pas emmurée dans son propre château. Et elle meurt à l'âge de 54 ans. Je vous propose donc que l'on s'écoute un extrait de Woman of Dark Desires et on se retrouve juste après. On quitte la Hongrie et la Transylvanie de Elizabeth Bathory pour aller un petit peu plus à l'ouest. J'ai envie de vous emmener en Bretagne pour découvrir le personnage d'Hélène Jégado, un personnage qui a fortement intéressé le groupe rennais Exécutor, un groupe de thrash qui mélange thrash, black metal et heavy metal, qui est vraiment très très bon dans ce qu'il fait. Un groupe très très véloce qui a guitaristiquement vraiment un bon coup de poignet, je trouve, chez Exécutor. Une vraie hargne aussi. C'est un groupe qui c'est pas tous les jours qu'on en croise non plus, qui peut chanter en français parfois. C'était un de mes coups de cœur de l'année 2020 avec leur album Beyond Any Human Conception of Knowledge, qui était vraiment très bon. Je vous conseille par exemple, en plus du morceau qu'on va écouter le titre Kéris, parle d'une cité engloutie bretonne, qui est vraiment excellent. Il y a une vraie hargne chez Exécutor, avec en même temps beaucoup de choses intéressantes au niveau guitare. Donc c'est un groupe que je vous conseille très fortement, et c'est un groupe qui est très intéressé par les légendes et l'histoire, notamment bretonne, puisqu'on va parler de Hélène Jégado. Qui est considérée comme la première serial killeuse française en réalité. Et donc c'est une femme qui est née en 1803 à Plouhinec, donc en Bretagne, et elle a un destin funeste, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc Hélène Jégado, elle est née de parents fermiers qui ont une condition plutôt modeste. Et de la même façon qu'Elizabeth Bathory, Hélène Jégado, elle a une enfance qui n'est pas forcément évidente. Sa mère meurt alors qu'elle n'a que 7 ans. Suite à la mort de sa mère, en tout cas, elle est placée comme servante dans un presbytère chez ses tantes. Donc c'est quelque chose qui peut paraître très brutal, en tout cas aujourd'hui. Voilà, un enfant de 7-8 ans qui est déjà servante, finalement. C'était malgré tout, entre guillemets, pas si mal pour l'époque. Parce que ça donnait des possibilités de promotion sociale, ça lui permettait d'être également à l'abri, et elle apprend aussi voilà, des savoir-faire, elle apprend à cuisiner notamment dans ce presbytère. Donc le fait d'être placée justement après la mort de sa mère et plutôt quelque chose qui aurait pu peut-être la sauver, ou qui aurait pu lui garantir un destin peut-être moins terrible que ce qui l'attend. Donc Hélène Jégado, elle passe ses premières années donc, dans ce presbytère, et puis elle sert les prêtres, voilà, elle côtoie les curés, etc. Il faut savoir qu'elle est très, très pieuse, en fait. Elle donne vraiment une impression d'être très, très dévote, de prier régulièrement, etc. Mais malgré tout, elle va commettre son premier meurtre en 1833 avec un empoisonnement à l'arsenic. On a dit qu'elle était dans les cuisines, on a dit qu'elle était servante. C'est pas un hasard, elle choisit l'empoisonnement pour mettre fin au jour du père du curé. Et en fait, c'est le premier crime d'une série de meurtres qu'elle va commettre à travers plusieurs endroits en Bretagne. On a une certitude historique, encore une fois, de 27 victimes, pour le coup. Et elle choisit à chaque fois de commettre ces crimes avec le poison. Voilà. Le poison, pourquoi? Parce que l'arsenic, déjà, on peut en trouver sans trop de problèmes à l'époque. Et puis, au-delà de ça, on est à une époque où il y a encore le choléra qui sévit. Et le choléra présente des symptômes qui sont assez proches de ceux de l'empoisonnement à l'arsenic. Donc, il y a a priori pas de suspicion sur Hélène Jégado, qui, en plus de ça, on l'a dit, est très religieuse, très pieuse. Et elle va systématiquement au chevet des malades et au chevet des et elle va veiller les morts une fois qu'ils sont décédés avec justement tout ce côté voilà prière ce côté voilà très dévote qui fait qu'elle est presque au-dessus de tout soupçon. Elle passe d'un établissement à l'autre, d'une maison à l'autre. Alors elle est voilà dans des presbytères, elle peut être également chez des particuliers et elle s'attaque du coup à ceux et celles qui lui déplaisent finalement. On va voir qu'il y a plusieurs raisons à ça. Elle a pas mal de défauts. Hélène Jégado, elle est déjà sévèrement alcoolique et elle est souvent accusée d'aller piquer dans les bouteilles de là où elle travaille. Et c'est au moment voilà où ce genre de choses commence à se savoir. Elle peut aussi voler de l'argent. Elle a vraiment pas un caractère facile. Et dès lors qu'elle est contrariée ou que ça pourrait remettre en cause son poste de là où elle travaille, là où elle vit, elle va passer justement à l'empoisonnement à l'arsenic. Et elle va commettre tous ses crimes dans différents endroits de la Bretagne, on l'a dit. Elle en fait dans le Morbihan, dans les Côtes d'Armor, et elle va aller comme ça jusqu'à Rennes. Et donc, à Rennes, malheureusement pour elle va être embauchée chez Robert Bidart de la Noë. Robert Bidart de la Noë, qui est à l'époque un homme politique, qui est aussi un homme de loi. Il a été député du Morbihan. Et chez ce monsieur, donc deux domestiques sont morts. Avec encore une fois une histoire d'empoisonnement, mais une fois de plus, Hélène n'est pas soupçonnée a priori. Elle est simplement domestique. Bon, il se trouve que partout où elle passe, voilà, les autres domestiques ne font pas long feu, mais pour le moment, personne n'a recollé les pièces du puzzle. Et donc, alors que les médecins arrivent, le premier réflexe d'Hélène Jégado, qui est celle qui leur ouvre la porte, est de dire: « Je suis innocente. » Alors, c'est un problème de clamer son innocence quand on est accusé de rien. Ça éveille quelques soupçons. Voilà, il se trouve que pas mal de choses font que elle se grille un peu toute seule, quoi. Hélène Jégado, malheureusement, elle est un petit peu, elle perd ses moyens avec l'arrivée des médecins. Et voilà, on a dit qu'elle était chez un homme assez influent qui connaît la loi. Donc, il ne faut pas longtemps avant que Hélène Jégado soit mise sur le banc des accusés et que voilà qu'elle se retrouve face à la justice. Et sa défense n'est pas franchement des plus convaincantes, ce qui fait que Hélène Jégado va se retrouver condamnée à mort. Elle aura des regrets la veille de sa condamnation à mort. Elle va demander à avoir un homme d'église pour prier, etc. Elle va finir guillotinée suite à ses meurtres en série par empoisonnement. Voilà. Une dernière chose avant de passer à Exécutor, on peut se poser la question du mobile, on en a parlé, elle a un fort problème d'alcoolisme, de vol, ce genre de choses, donc ça aide pas forcément dans les relations sociales. Elle risque souvent d'être renvoyée aussi de son emploi. Ça pose forcément un problème. Elle développe aussi un certain sentiment de jalousie vis-à-vis des autres servantes. Et au-delà de ça, en ce qui concerne son enfance, il y a des soupçons sur lesquels elle aurait peut-être été violée, jeune. Donc voilà, on ajoute ça à son enfance, qui était déjà pas toute rose. Disons que voilà, on a des signes avant-coureurs qui pouvaient laisser présager qu'elle allait sûrement déraper à un moment ou un autre. Si on se reporte maintenant au texte d'Exécutor, on peut s'interroger peut-être sur une phrase ici, donc qui est She became the embodiment of Lankou. Donc elle est devenue l'incarnation de Lankou. Ici, on parle d'une croyance bretonne en Lankou, donc Ankou, qui est en fait la représentation de la mort en Bretagne. Et c'est une vision qui apparemment une légende qui l'a beaucoup marquée quand elle était enfant. En fait, Lankou, c'est la mort qui arrive dans le village en charrette. Et quand on entend un bruit de charrette près de soi, ça annonce la venue de la mort, justement, et que normalement nos dernières heures sont comptées. Et en fait, elle en est quelque part devenue une sorte d'incarnation, parce qu'elle a ce côté errant, justement. Elle fait quand même trois départements en Bretagne, elle passe dans différentes villes, différents villages, et partout où elle passe, elle sème la mort derrière elle. Elle est même rentrée dans la légende, puisqu'aujourd'hui, en Bretagne, on peut parler de l'Agégado. Voilà, si l'Agégado, c'est devenu presque voilà une sorte de figure macabre qui peut venir vous prendre la vie à coup d'arsenic. Donc voilà, Exécutor rappelle ce lien avec Lankou, cette figure mythique. Propre à la Bretagne. Et puis il nous dépeigne aussi un portrait, bah, qui est assez proche, hein, de ce qui se dit sur le personnage historique tel qu'il a existé. Donc ils nous disent: accused by public rumors, she fakes lamentations to tame the masters, shitloads of tears to fool the doctors, she never fails any victims' funerals. Donc, accusée par des rumeurs publiques, elle simule des lamentations pour apprivoiser ses maîtres, pour attendrir ses maîtres, des tonnes de pleurs et de larmes pour tromper les docteurs. Elle ne manque aucun des enterrements de ses victimes. Alors, on voit le côté très pieuse de Hélène Gigado, mais aussi très menteuse. Elle a vraiment cette réputation de caractère vraiment horrible qui la suit. Elle est dépeinte également dans la chanson comme étant alcoolique, hypocrite, voleuse, et c'est ce qui ressort véritablement de son portrait, même historique. Elle est vraiment vue comme une personne totalement acariâtre et assez détestable. Et enfin, dernière phrase peut-être qui peut nous intéresser: From Séglion to Rosen, death walks on her footsteps. Donc on parlait de Lankou. Et ici, bah, Exécutor cite deux villes bretonne, en l'occurrence Séglien dans le Morbihan, et Rosen, donc qui est le nom breton pour reine. Donc Death Walks on Her Footsteps. Donc ici, on voit bien effectivement que Hélène Gigado a semé la terreur dans presque toute la Bretagne, qu'elle est devenue un synonyme de la mort, un symbole de la mort dans cette petite partie de la France. Si jamais vous êtes en Bretagne et que autour de vous, tout d'un coup, vous entendez une charrette arriver, c'est peut-être que la Gégado n'est pas très loin.
Yeah.
Et pour terminer ce petit tour d'horizon des femmes tueuses dans le métal, on va aller faire un tour du côté des États-Unis avec une figure tristement connue là-bas qui s'appelle Lizzie Borden, une femme américaine qui est née au milieu du 19e siècle et qui est accusée d'un double meurtre qui a fait grand bruit à l'époque aux États-Unis. Donc Lizzie Borden, c'est une figure qui mine de rien a un certain écho dans le hard rock ou le metal. On peut citer pareil d'autres exemples que celui que j'ai choisi aujourd'hui, donc qui est celui de Flotsam and Jetsam. On va parler d'Alice Cooper déjà, qui en parle dans son titre Inmates We're All Crazy. Il y a un groupe aussi qui s'appelle Lizzie Borden, qui est actif depuis 1983. Et on a également le groupe de death metal Macabre, qui a un titre tout simplement appelé Lizzie Borden, qui est, bon là c'est un peu moins étonnant puisque Macabre est un groupe qui est très porté sur tout ce qui est serial killer justement, ou sur toutes les histoires un peu dans ce genre-là. Donc c'est pas très très surprenant de retrouver Lizzie Borden chez eux. Et Lizzie Borden est aussi connue pour une sorte de comptine qui a un peu macabre, une sorte de comptine un peu enfantine macabre qui s'est créée après son double meurtre, mais on reviendra là-dessus juste après. Donc Flotsam and Jetsam qui sort son premier album en 1986, d'où est extrait ce titre justement. Donc le titre c'est She Took an Axe, donc elle a pris une hache. Il est connu notamment ce groupe-là pour avoir été le premier groupe de Jason Newsted qui arrivera après dans Metallica. Donc Flotsam and Jetsam, c'est du thrash, on va dire, assez typique de l'époque. C'est pas désagréable, franchement. Leur album s'appelle Doomsday of the Deceiver. Il est souvent cité pour le thrash un peu de la grande dans le thrash un peu de la grande époque. Même si apparemment il y a d'autres albums qui lui font de l'ombre, parce qu'on est en 1986, et il y a d'autres disques, alors je connais pas trop, ça s'appelle Rain in Blood, apparemment, Master of Puppets, et puis Peace Sells, But Who's Buying? Ouais, je sais pas, bah, apparemment ces albums-là lui ont fait un peu d'ombre quand même. Bon, je sais pas qui a fait ça, mais bon, c'est dommage pour eux, quoi. Donc, on va parler de Lizzie Borden, tristement connue, qui vient d'une famille assez aisée. Donc, elle a, pour resituer un petit peu son contexte familial, elle a une sœur qui s'appelle Emma, qui est plus âgée qu'elle d'une dizaine d'années. Sa mère décède quand elle est encore assez jeune. Et son père s'est remarié avec une autre femme. Donc Lizzie vit avec eux et comme je l'ai dit, on est dans une famille assez riche. Le père a notamment plutôt des moyens, mais il se trouve qu'il est assez avare malgré tout sur son argent et ils auraient pu vivre dans un quartier plus beau et plus prestigieux que là où ils décident de vivre et là où ils résident, où on est dans des conditions un peu plus modestes pour le coup. Lizzie, quand elle commet ce double meurtre, Lizzie, donc elle a une trentaine d'années, et elle a voilà, des relations qui sont quand même assez tendues avec sa belle-mère, notamment. Ça se passe pas très bien. Son père, c'est pas idéal non plus. Et comme on l'a dit, ses parents sont, enfin là, son père est assez fortuné, donc il y aurait peut-être une certaine jalousie ou une certaine volonté de toucher l'héritage un peu de manière prématurée. Voilà, ça fait partie des possibilités qui expliquent malheureusement le double meurtre que Lizzie Borden va commettre sur sa belle-mère et son père. Comment ça se passe dans la semaine qui précède le meurtre? Déjà, le couple Borden et la servante s'étaient plaints de maux de ventre parce que visiblement il y a quelque chose qui n'était pas passé au repas. Et c'était possiblement Lydie qui a essayé de les empoisonner. Alors, ils n'en sont pas doutés immédiatement. Ils sont allés voir un médecin, mais bon, il n'y a pas eu plus de. Ils ont évoqué peut-être la possibilité du poison, mais bon, là, ils s'en sont sortis. Voilà, ça a rien donné de plus. Mais dans cette même semaine, Lydie, justement, va commettre l'irréparable. À ce moment-là, le jour où ça arrive, Lydie se trouve donc dans la maison. Il y a aussi sa belle-mère. La domestique de la famille est également présente. Et il y a John Morse, le frère de la mère biologique de Lydie. Donc sa mère qui est décédée, son frère est venu rendre visite à la famille. En ce qui concerne la sœur de Lydie Borden, Emma, elle est partie voir une amie. Donc a priori, elle est innocente. Et le père de Lydie et Emma, de son côté, il est en ville pour faire des courses. Et la mère est tuée à 9h30 par 18 coups de hache. Donc une certaine sauvagerie quand même dans l'exécution, dans le meurtre. De son côté, le père de Lydie Borden est accueilli à 11h avec 10 ou 11 coups de hache, lui aussi. Un meurtre assez sanglant, un double meurtre assez sanglant. Lydie, juste après, prévient la police peu de temps après après avoir apparemment découvert les corps chez elle. Malheureusement, il y a pas mal de choses qui tendent à l'accuser parce que voilà, elle a des alibis qui sont assez peu convaincants. Soi-disant, elle était à un autre endroit de la maison, mais c'est peu probable qu'elle s'y soit rendue compte tenu des températures apparemment où il faisait très chaud ce jour-là. Il n'y a pas non plus d'effraction dans la maison qui était fermée, d'accord? Les portes étaient verrouillées, donc il n'y a pas d'effraction non plus. Malheureusement pour elle, elle a été vue la veille en train d'acheter quelque chose qui pourrait servir à empoisonner des gens. Et quelques jours plus tard, elle brûle une robe parce que selon elle, il y avait plein de peinture dessus. Bon, je vous laisse deviner la couleur de la peinture, mais voilà, il y a pas mal d'éléments qui l'accusent et qui l'accablent quand même dans ce double meurtre commis à la hache. On peut penser peut-être à la domestique, mais apparemment elle était absente, elle était occupée à l'extérieur de la maison au moment où les meurtres ont été commis, et elle aurait entendu un bruit dans les étages, mais elle pensait que c'était normal, elle a pas prêté plus attention que ça. Et visiblement, elle avait suffisamment d'alibi pour être innocentée. Concernant le mobile, on l'a dit, il y a une histoire de potentielle histoire d'héritage, d'intérêt financier pur et simple. Il y a aussi malheureusement la piste de l'inceste qui est ouverte, voilà, cette possibilité-là, malheureusement, et la possibilité de violence intrafamiliale aussi, des pistes qui sont envisagées aujourd'hui, avec le regard qu'on a aujourd'hui au XXIe siècle de cette affaire-là. Et c'était des choses qui n'ont pas été prises en compte, en tout cas à l'époque de son procès. Procès qui, finalement, ne la condamnera pas. Elle est acquittée finalement. Elle se retrouve face à un jury de 12 hommes. Et en fait, les 12 hommes se disent, mais une femme n'est pas capable d'une telle force. Elle ne peut pas asséner 18 coups de hache, puis 11 coups de hache juste après. Donc c'est ça qui va finir par l'innocenter. Mais il y a beaucoup d'éléments qui laissent penser qu'elle pourrait être la coupable de ce double meurtre. Et donc j'ai parlé juste un peu plus tôt d'une comptine qui s'est créée sans doute après cette affaire, qui a eu, comme je l'ai dit, pas mal de retentissement aux États-Unis à l'époque. Cette comptine, ou en tout cas cette espèce de petite rime, donc cette comptine, c'est la suivante: Lydie Borden took an axe, she gave her mother 40 whacks, when she saw what she had done, she gave her father 41. Donc ici, une sorte de petit jeu de un peu de rime, de rythmique sur cette phrase-là. Donc Lydie Borden a pris une hache, elle a donné 40 coups à sa mère. Quand elle a vu ce qu'elle avait fait, elle en a donné 41 à son père. Ici, une comptine qui est censée, je pense, effrayer les enfants, qui déforme un peu la réalité. On n'a pas exactement ce nombre-là de coups de hache qui est donné. On le retrouve justement, cette comptine, ou ces deux vers-là, dans le morceau de Flotsam and Jetsam. On retrouve également l'idée du fait qu'elle était peut-être possédée par le démon. C'est en tout cas, ça, c'est peut-être le côté métal de la chose qui veut ça. Mais on a vu, hein, on a parlé plutôt du she devil, donc la possibilité que la représentation que la femme meurtrière soit presque cruelle par nature, ou soit encore pire qu'un homme meurtrier. Et on le retrouve dans le texte de Flotsam and Jetsam, justement, il parle de evil spirit. et il parle de serviteuse de Bélial, voilà, donc un des démons, un des multiples démons qui est qu'on retrouve souvent cité dans les paroles du métal. Donc il y a cette idée-là de comme quoi elle, pourquoi pas, elle aurait pu être possédée, avoir une être du côté diabolique de la force. Et enfin, deux autres vers qui sont intéressants chez Flotsam and Jetsam, donc toujours à propos de Lizzie, et surtout à propos de la fin de son procès, puisque on l'a dit, elle est innocentée, elle est acquittée. Today she walks free, acts by her side, she is Miss Lizzie, she strikes again. Donc ici, avec ces paroles-là, même si on est en 1986, que les faits sont bien antérieurs, Flotsam and Jetsam, ils concluent leur morceau là-dessus, avec cette idée que, ben, puisqu'elle a été innocentée, elle est peut-être encore dans les parages, elle a une hache à sa disposition, elle pourrait peut-être encore frapper. Voilà, c'est terminé pour cet épisode 4 de L'œuvre au noir consacré aux femmes tueuses. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. C'est encore un autre aspect que j'avais pas trop exploré jusque-là, à savoir des figures historiques. Ça m'a bien plu de le faire, d'en apprendre plus sur ces différents personnages. Là-dessus, on va pouvoir conclure l'épisode. Donc, allez écouter Bathory, allez écouter Executor et allez écouter Flotsam and Jetsam. N'hésitez pas non plus à aller voilà, laisser un commentaire sous la vidéo YouTube, à mettre un pouce bleu. Vous pouvez également noter le podcast sur Spotify, peut-être sur Deezer aussi, j'avoue que je sais pas trop. N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous souhaitez voilà, soutenir l'émission, ce serait super. Et puis on se retrouve pour l'épisode 5. Salut!